Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Je m'appelle François Allais et depuis 2017, je vais à la rencontre des entrepreneurs qui m'inspirent. PME, start-up, grandes entreprises, la mission de Serial Entrepreneur est de mettre en avant toute la diversité de l'entrepreneuriat francophone. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ce 112e épisode, je reçois Alex Raffetin, cofondateur de Père et Fiche, les restaurants street food de burgers au poisson, et de Brain Lab, une agence de stratégie marketing, de gestion de publicité et de création de contenu. Ava, Anthony et Alex se rencontrent à Nice pendant leurs études et se retrouvent autour de valeurs communes, le partage, l'amour du poisson et le respect des produits et de l'environnement. C'est lors d'une grillade de poissons entre amis qu'ils ont l'idée de créer et développer la première chaîne de restauration rapide de poissons, notamment en popularisant et réinventant le burger de poisson. Au menu de cet épisode, vous allez retrouver l'environnement dans lequel il a grandi, ses expériences marquantes de salariés, la création et le développement de Père et Fiche, leur stratégie de communication qui les a fait exploser sur TikTok et Instagram, le lancement de leur franchise et plein d'autres sujets croustillants, dont plusieurs exclus. L'épisode est disponible intégralement en vidéo sur YouTube. Prenez soin de vous et on se retrouve dans 7 jours pour un nouvel épisode.
Vraiment, franchement, tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'était en mode, il y a une opportunité, je me dis, bon, pourquoi pas. Et donc de là, on continue à faire des concours et en fait, on gagnait quasiment tout. On avait une vision assez large et pas du tout typique restauration. Alors moi, c'était clairement les pires mois de ma vie. Donc on se retrouve avec un mois et demi d'espérance de cash. Après, on pouvait plus payer les employés. Et au même moment, je me sépare de mon ex et je suis resté quasiment 6 ans.
Et qu'est-ce qui fait que t'arrives à rebondir ?
En vrai, c'est incroyable. Je vais la raconter sur ce podcast quand même, mais là, t'as une exclue.
Salut Alex, comment tu vas ?
Ça va et toi ?
Très bien, je suis très content de te recevoir sur Serial.
Eh ben écoute, moi aussi, parce que ça fait 3 ans que j'écoute tes podcasts.
Ah ouais, ok, trop drôle. Eh ben écoute, franchement, très très content de t'avoir sur le podcast. Je pense qu'on va pouvoir parler de pas mal de sujets, notamment tes deux business que sont Père et Fiche et Brain Lab. Je commence tous mes podcasts avec la même question. Et la première, c'est dans quel environnement est-ce que tu as grandi ?
Eh bien, écoute, en vrai, très bon environnement. Donc, je viens de Nice. J'ai deux petits frères qui ont 4 ans et 10 ans de moins que moi. Et en soi, mon père, il était joueur de tennis pro. Et après, enfin, là, il a toujours, d'ailleurs, maintenant, depuis longtemps, un club. Du coup, il est prof de tennis. Et en fait, ma mère a arrêté de travailler quand mon premier petit frère est né. Donc, quand j'avais, tu vois, 4 ans. Donc du coup, mère au foyer qui s'est très bien occupée de nous, on manquait de rien, mais enfin tu vois, ils m'ont vraiment éduqué, je trouve, dans les bonnes conditions, dans le sens où pas du tout pourri gâté, un peu d'argent de poche, tu vois, genre au lycée j'avais 1 euro par jour. C'est pas une blague en plus.
Pékin Express.
Pékin Express, et Pékin Express n'existait pas encore, je crois, au début. Et je disais à mes parents, là c'est chaud, tu vois. Et en fait, bah, il me disait, voilà, si tu veux aller t'amuser, faire le con et tout, tu vas travailler. Donc, j'ai commencé à faire beaucoup de jobs étudiants, tu vois, à 18 ans, et 17-18 ans. Et ce que je trouve cool, parce que bah, du coup, vu que je fais plein de jobs de merde, je me suis vite rendu compte que j'avais envie un peu de me bouger, tu vois. Et ça t'apprend un peu les valeurs de la vie. Donc, sinon, voilà, très bonne ambiance familiale, mes parents ensemble, tout se passe bien, je m'entends bien avec mes frères, donc cool.
Ton père a été joueur de tennis pro, du coup ? Il est monté à quel niveau ?
Bah alors, c'est la première fois que je raconte cette petite anecdote. En fait, mes grands-parents, ils étaient au Maroc. Donc, ils sont arrivés au Maroc, je sais pas à quel âge, mais mon père est né là-bas. Et mon père, avec son frère, faisait beaucoup de tennis. À 15 ans, ils sont venus à Nice. Et en fait, ils étaient une team de 5 personnes, qui étaient un peu 5 meilleurs potes. Et dedans, il y avait mon père, son frère, le meilleur pote de mon père avec qui il a le club aujourd'hui, un autre pote à eux qui a arrêté, et Yannick Noah. Donc ils étaient en gros une team de 5, et en fait ils étaient limite les 5 numéro 1 français, tu vois, jusqu'à, je sais pas quel âge, je crois que mon père il était genre champion de France jusqu'à 18 ans, tu vois. Ils étaient et en fait ils ont commencé à voyager un peu partout dans le monde. Et mon père, il est monté à 250 mondial, son frère il a fait 120. Et bah Yannick Noah a fait Yannick Noah. Et voilà, il y en a un, je sais pas combien il est monté, et un autre qui avait arrêté un peu avant. Et donc du coup, en fait, ils faisaient que voyager, tu vois, partout dans le monde pour faire tous les tournois et tout, jusqu'à entre 25 et 30 ans, il a fait ça.
Toi, est-ce que ça t'a donné envie de jouer au tennis? À un moment donné, de dire.
Moi, je suis un peu l'exclusion de la famille, c'est-à-dire que j'ai beaucoup joué, j'en ai fait 10 ans quand même, mais j'étais le premier à arrêter. Et après, j'ai fait. En fait, je me suis mis à faire de la danse après, c'était vraiment le truc pour le coup sur lequel j'avais une vraie passion. Et tu vois, dans ma famille, tout le monde a fait du tennis. Ma mère jouait au tennis, mes deux frères, ils sont montés à. Il y en a un qui est monté à négatif, l'autre qui. Enfin, tu vois, qu'il était parti. Mon frère qui a 26 ans là, il était parti en Floride pendant 3 ans parce qu'il avait une bourse. Pour jouer au tennis et tout, tu vois. Le petit, pareil, il est monté quasiment à zéro à 19. Je crois qu'il est monté à 2-6 à 19 ans, tu vois. C'est quand même des bons niveaux. Et mon parrain, il est prof de tennis. Bref, c'est une famille très, très tennis.
Ok, super. Toi, comment ça se passe, tes études? Est-ce que tu le vis bien? Est-ce que ça se passe bien? Comment est-ce que tu le vis?
J'avais des bonnes notes. Tu sais, j'étais les profils un peu maths, tu vois, très logique, raisonnement, catastrophe en orthographe et en français. Et j'avais des bonnes notes en soi, tu vois. Enfin, en fait, j'avais des facilités, ça me saoulait. Et donc, du coup, je faisais un peu le minimum pour avoir, tu vois, entre collège de R13-14, lycée, je sais pas, je suis parti en S et là, c'était vraiment chaud. Donc, j'ai failli redoubler la seconde, première terminale, galère, j'ai eu le bac. Et après, je suis allé à l'UIT, et en fait, à partir de là, les cours étaient un peu plus intéressants. Mais tu vois, le problème du collège-lycée, c'est que ça ne m'intéressait pas, quoi, tu vois. Et je pense que si j'avais été intéressé dès le début, bah, je me serais vachement investi. Parce que comme tout, quand tu fais des trucs que tu kiffes, bah, du coup, automatiquement, tu es plus impliqué dedans, quoi.
Comme beaucoup de gens, je pense, tu vois, le fait au collège-lycée d'aborder plein de trucs très généralistes, enfin, tu vois, sans avoir de sujet particulier, en fait... Il n'y a rien qui t'intéresse. Ouais. Du coup, à ce moment-là, tu dis...
En fait, le truc que je trouve fou, c'est que on te cherche jamais à comprendre ce que tu as envie de faire plus tard, tu vois. On te dit, tu as des bonnes notes, va en S, va en prépa. Mais tu vois, quand je suis arrivé à l'IUT, il y avait des gens qui étaient de STG, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais qui avaient des profils beaucoup plus axés, tu vois, business, commerce et tout. Et je me disais, mais en fait, c'est stylé ce qu'ils ont fait. Alors que moi, quand j'étais au lycée, c'était en mode, tu fais S, ES, et après, si t'es nul, tu vas en STG, tu vois. Et en fait, c'est comme tout après le bac, genre, franchement, moi, j'ai commencé à chercher ce que je voulais vraiment faire à partir de bac plus 3, tu vois. On t'apprend pas les métiers, les secteurs, les industries. C'est quand même hyper compliqué, quoi, tu vois. C'est un vrai problème aujourd'hui.
C'est clair.
Il y a quelque chose à résoudre.
De ouf. Il y a toute l'éducation à revoir, mais ça, on en parlera dans un autre podcast. C'est quoi ton premier rapport au taf? Le premier job que tu as? Je sais que tu as fait pas mal de jobs étudiants.
Ouais, au début, je bossais un peu avec mon père au club. Donc en vrai, en mode cours de tennis, tu vois, pour les petits et tout. Franchement, c'était cool. C'était bien. Et après, en fait, je fais 2 ans d'IUT. Et à ce moment-là, en fait, depuis 17 ans, je faisais beaucoup de danse. Genre, j'étais 10 à 15 heures par semaine. Mmh. C'était vraiment un truc, je m'étais dit, vas-y, je vais faire danseur, tu vois. Je finis l'UT, je parle pas un mot d'anglais, parce que bah j'ai été trop con, tu vois, au collège et tout. Je me disais, ça sert à rien. Et donc, en fait, j'étais vraiment, vraiment nul de chez nul. Je me dis, vas-y, je bouge à Londres pour apprendre l'anglais. Donc, j'arrête les cours un an. Et en fait, je faisais de la danse là-bas aussi beaucoup. Genre, j'étais quasiment 3 heures par jour. Et à côté de ça, je faisais des jobs en intérim dans de l'hôtellerie de luxe. Et là, vraiment, j'ai fait des trucs de merde, des trucs horribles en costard et tout, avec mon meilleur pote qui avait bougé avec moi. On avait été pris dans un bar, avant de faire l'intérim, on était pris dans un bar à cocktail. C'était des gars, tu vois, qui avaient une des plus grosses boîtes de Londres. Donc, tu vois, le truc très chic, avec une bonne clientèle et tout. Et en fait, nous, on faisait n'importe quoi. Genre, on parlait pas anglais, donc il m'avait dit, toi, tu fais juste runner. Mon pote, il avait voulu encaisser une table d'un des patrons. Parce que le mec lui avait dit, c'est un patron, tu l'encaisses pas. Il avait dit yes, mais il avait pas compris. Du coup, il commençait à embrouiller le patron en mode, tu pars pas sans payer et tout. En fait, on était devenus un peu les larbins, mais tout le monde nous aimait bien. Et moi, un soir, pour te dire, ça, c'était vraiment la pire soirée de ma vie. Il pleuvait de ouf. Et ils n'avaient pas de balai. Et il m'avait donné des rouleaux de PQ. Et il me disait, quand les gens rentrent, tu frottes comme ça derrière pour pas que le resto soit trempé. Et ça, je pense que niveau job, c'était une de mes pires soirées, tu vois.
Ouais, tu m'étonnes.
Et après, bah, beaucoup d'hôtellerie, de restauration, des trucs, des jobs étudiants, quoi. Donc, même si ça bossait dur, et des fois, c'était cool. Et des fois, c'était l'enfer, quoi.
Qu'est-ce que tu fais après tes études? Je sais que tu as d'abord des expériences en tant que salarié.
Ouais, je fais un an à Londres. Là, je me dis, j'ai plus de thunes, c'est la merde. Je reviens en France, je me dis, je reprends les études, je fais une licence 3 dans une université anglaise. Et après, je rentre à Schema, donc école de commerce. Je fais M1, césure, M2. Et en fait, tout est allé assez vite parce que j'ai fait mon premier stage de césure chez Kiabi en chef de produit. Rien à voir. Je me suis très vite rendu compte que j'étais parti sur la mauvaise direction. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'avais déjà commencé à beaucoup me renseigner et tout. Et en fait, j'ai appelé tout le monde, tous les gens que je connaissais, les potes de mon père, les gens plus vieux, en mode, tu fais quoi dans la vie? Pourquoi tu fais ça? Est-ce que t'aimes et tout? Et en fait, petit à petit, je me suis dit, bon, bah, lui, cool, lui, pas cool, etc. Et en fait, j'avais un pote qui avait 50 plus, qui avait participé à l'ouverture des bureaux LinkedIn à Paris, 2013, qui était un profil, tu vois, smart, mais branleur. Et qui avait raté tous les concours d'école de co, et il avait rencontré le futur boss LinkedIn France en soirée à Paris. Je lui ai dit, ah mec, viens bosser avec moi et tout. Paf, paf, paf. Il m'explique, et en fait, il avait 29 ans, et il me dit, bon voilà, je commence à pas trop mal gagner ma vie, j'ai un package à 150. Moi, dans ma tête, je me dis, c'est pas possible, tu vois. En fait, il me dit, ben, c'était début 2015. Il me dit, boîte américaine dans le digital, tu vas voir, c'est déjà énorme, mais ça va exploser et tout. À partir de ce moment-là, j'ai réussi à trouver une césure chez Yahoo, chez ma césure. Gros plan de licenciement, énormément qui partent. Et du coup, quand j'étais en M2 après, bah, où j'ai commencé à développer ma première boîte, bah, j'ai tous mes managers, enfin beaucoup qui m'ont rappelé pour des jobs, Snapchat, Spotify, Yahoo qui m'a proposé un gros truc. Et en fait, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire les deux d'un coup. Histoire de vraiment...
histoire de mettre
histoire
tous les...
De, voilà, ouais. Histoire de vraiment faire n'importe quoi, je fais les deux d'un coup.
Okay.
Et donc, bah, on attaque Père et Fiche à Paris. Pour ben, commencer à développer la boîte, pour chercher à ouvrir le premier restaurant. Et moi, en parallèle, j'avais mon CDI chez Yahoo, qui après s'est fait racheter par Verizon. Donc, on a fusionné avec AOL et Microsoft. Donc, j'étais sur la régie comme ça pendant 2 ans et demi. Et c'était cool.
Ouais, t'as kiffé. Tu retiens quoi de tes expériences en tant que salarié?
Ben, J'ai trop kiffé. J'ai pas du tout le discours que beaucoup d'entrepreneurs ont en mode ben, j'ai pas envie d'avoir de patron et tout. Moi, déjà, j'ai pris mon CDI en juin 2017. J'ai déjà beaucoup de liberté, tu vois, niveau géographie et tout. Enfin, je pouvais beaucoup télétravailler déjà à l'époque. J'avais un portefeuille client, en fait, fallait que je fasse mes objectifs. Et derrière, mes patrons, ils me laissaient un peu tranquille. J'avais des boss, c'était des tueurs, genre des mecs vraiment connus sur le marché. Moi, N+2, qui était le boss Europe de Yahoo, maintenant, c'est le boss de Taboola France. Il me disait, Alex, t'aimes bien sortir, tu devrais me faire plus de notes de frais en soirée avec tes clients, tu vois. C'était le truc sur lequel il me prenait le plus la tête, tu vois. Donc, en fait... Et en plus, j'ai vraiment, enfin, tu vois, tout ce qui est marketing et tout, digital, et j'adorais l'univers et j'étais vraiment passionné. Donc, je m'inspirais beaucoup, j'essayais de m'instruire au maximum, de rencontrer beaucoup de gens. Et on avait une ambiance, j'avais une trop bonne team, tu vois, on est tous toujours potes, on s'entend super bien. Donc, en fait, quand t'es dans des conditions comme ça, j'avais la même sensation quand j'allais au travail le matin que comme quand là, je travaille pour mes boîtes, tu vois, j'étais là en mode, putain, je vais kiffer ma journée, quoi. Et donc en vrai trop cool, et après c'est juste qu'on a fusionné avec les Microsoft et tout, et t'avais beaucoup plus de profils, tu vois, un peu planqués, qui gagnent beaucoup d'argent sans rien faire, et moi ça me rendait fou parce que, bon, ça me rendait fou quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, mais non mais c'est pas possible, et du coup il y a eu un plan de licenciement qui s'est mis sur la boîte, moi je me suis mis dedans et je suis parti.
Ok, je suis
sans regret.
Ouais, no regrets. Je suis complètement aligné avec ce que tu as dit sur le fait d'avoir une XP en tant que salarié. Il y a eu beaucoup d'entrepreneurs dans le podcast qui justement ont eu cette XP et qui a été hyper importante pour la suite. Moi, tu vois, pareil, j'ai aussi été salarié avant de me lancer.
T'as fait combien de temps toi en salarié?
J'ai fait 2 ans et demi.
Ah bah comme moi.
Tu vois, et je ne me serais pas lancé sans ça. Tu vois, clairement, je pense que c'était hyper important. Et je pense que c'est important de le rappeler sur des podcasts reliés à l'entrepreneuriat que, effectivement, la rat race, etc., c'est souvent...
Ouais, non.
Souvent
en fait, encore une fois, c'est qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, tu vois, et dans quoi tu es épanoui. Si tu as un mec qui a envie de travailler dans une banque privée et que c'est une brute en finance...
Ça te fait kiffer.
Bah fais-le, tu vois. Mais c'est juste que l'entrepreneuriat est un peu survalorisé actuellement et les gens voient que la face cool et
ouais,
pas
que les paillettes.
Ouais, exactement. Et c'est quand même beaucoup, beaucoup plus dur d'être entrepreneur que salarié dans 99% des cas quand même, tu vois.
C'est clair. Et donc là, on se retrouve en 2018.
Ouais, 2019. Ouais.
Tu lances Père et Fiche.
Ouais, fin 2018.
Avec deux associés.
Ouais.
Anthony et Ava.
Exactement.
Est-ce que tu peux me... Alors, je sais que vous êtes potes à la base. Comment est-ce que ça se passe le moment où vous vous dites on va monter cette chaîne de street food spécialisée dans les burgers de poisson?
Bah, on était en cours à Schema, projet scolaire. On bosse dessus. Vraiment, franchement, tout ce qui s'est passé dans ma vie, c'était en mode il y a une opportunité, je me dis bon, pourquoi pas, tu vois. Donc genre, j'avais vraiment rien qui était calculé, et à chaque fois, bah tu vois, là on fait le projet, on a notre évaluation, on a la note, boum, c'est fini. Notre directeur de master nous dit faites des concours. Bon, pourquoi pas, boum, on fait des concours, on commence à les gagner. Et là, beaucoup d'opportunités, challenge en fait, qui nous appelle pour faire un article sur les 100 startups pour investir. C'était en 2017. À l'époque, on était toujours en cours. On n'a toujours pas testé les produits. On ne savait même pas ce qu'on allait faire. Et de là, en fait, on commence à recevoir plein de demandes d'investisseurs. T'avais Steve Urgraff de Big Fernand qui nous appelle, qu'on avait rencontré. Le directeur marketing SNCF, directeur logistique France de Lego. Enfin, et d'un coup, tu vois, pour nous, on était étudiants, on se dit putain, mais c'est énorme, quoi. Et donc de là, on continue à faire des concours, et en fait, on gagnait quasiment tout, parce qu'on avait une vision assez large et pas du tout typique restauration. Et de là, on s'est dit, bah vas-y, on monte à Paris, on le fait, quoi. Et après, bah, on a improvisé, quoi. On fait un peu n'importe quoi. On a ouvert le premier resto fin 2018. Et en fait, à la base, on était quatre associés, enfin quatre potes. Et on a un qui est parti en, je crois, septembre 2021, parce qu'on était... toujours amis, mais plus alignés sur les horizons développement et tout. Donc là, maintenant, on n'est plus que trois.
Quand tu parles de vision large et différente de la restauration traditionnelle, qu'est-ce que tu entends par là, tu vois? Je sais qu'il y a une grosse partie marketing.
Ouais, ben, du coup, moi, vu que j'étais dans le marketing et l'e-commerce à fond, j'avais une approche beaucoup plus stratégique, tu vois, sur le marketing et sur toute l'image qu'on allait avoir. Et à côté de ça, on était déjà, tu vois, en mode, on va se répartir les rôles. T'as un profil hyper opérationnel, t'as un profil financier, légal, comment on protège notre marque dès le début, comment on imagine un plan de développement. Donc, en fait, on n'arrivait pas avec, on veut ouvrir un restaurant, on disait... on va créer un truc très gros, tu vois. Et du coup, bah, vu que le produit n'existait pas et qu'on arrivait bien à le vendre, bah, les gens, ça les excitait, quoi, tu vois. Donc, du coup, par rapport à là, ils disaient, OK, bah, là, ce projet-là, il y a du potentiel, et c'est ça qui nous permettait de gagner, quoi. Et en plus, on connaissait quand même plutôt bien nos sujets chacun.
Qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où vous avez eu l'idée à l'ouverture du premier resto?
Beaucoup de choses.
Résumé, tu vois.
Bon, tous les trucs à la con, business plan, ouais, etc. Après, les deux gros chantiers, c'était trouver les financements et trouver le local. Et en plus de ça, on n'était pas de la restauration, on sortait d'études et tout. Donc, les deux grosses galères, c'était comment nous, on réunit l'apport, on trouve des gens qui nous donnent un peu d'argent, on fait des concours et tout, on a le prêt à la banque. Et à côté de ça, comment on trouve un local. Et ça a été vraiment les... Enfin, n'importe qui ouvre un resto demain, ça va être les deux grosses problématiques, parce que nous, tu vois, il nous a coûté quand même un peu plus d'un demi-million le premier resto, donc c'est une petite somme à sortir, quoi.
Comment ça se passe, justement, l'ouverture de ce restaurant, aussi bien d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue humain, tu vois, même vous êtes dans quel état d'esprit, à 4 à ce moment-là, comment est-ce que ça se passe?
Alors moi, c'était clairement les pires mois de ma vie, parce que quand on a ouvert, j'étais encore en CDI. Donc en fait, j'allais vers 8h, 8h30 à mon job. Je partais à 18h30. Après, je faisais 19h, 23h30 le temps qu'on ferme au resto. Toute la semaine, le samedi, on faisait 8h, 23h30 au resto. Et le dimanche, on n'avait rien à faire, mais moi, je gérais mes trucs sur le marketing, etc. Donc je suis passé d'un truc où je me suis pris une charge de travail monstrueuse. En plus, moi, la restauration, ça me plaît pas. Donc je l'ai toujours dit à mes associés. C'est pour ça que au bout de 4 mois, je suis sorti totalement de l'opérationnel. Et donc en fait, je faisais des trucs qui me plaisaient pas. J'avais une quantité de travail, genre c'était même plus, enfin tu vois, honnêtement, c'était inhumain, quoi. Et je vais avec mon ex péter des plombs, parce que je peux comprendre, hein, parce que j'étais devenu un légume, quoi. Genre j'avais vraiment plus le temps pour rien. Et donc en fait, je fais comme ça 4 mois. Après, sur les 2 mois d'après, j'ai un peu calmé. Et après, j'ai dit ok, vas-y, je sors totalement. Et en vrai, au début, franchement, ça se passait bien entre nous. Mais voilà, il y avait des petites tensions et tout, mais c'est normal en fait, parce que moi, mes associés qui n'avaient pas le CDI, bah, ils vivaient pareil dans le resto, quoi. C'est juste qu'ils étaient dans le resto quand moi j'étais à mon boulot, mais franchement, c'était compliqué.
Puis c'est vrai que quand tu dis, moi, j'aimais pas du tout la restauration, ton associé qui a le plus d'affinité avec ça, c'est Anthony.
Parce que c'est Anthony et Ava surtout.
Et Ava aussi.
Ouais, les deux en vrai.
Qui, eux, ont une XP là-dessus et même un héritage culturel aussi.
Ouais, exactement.
Relié à tout ça.
On avait tous bossé beaucoup en restauration et après, tu vois, moi, en étudiant, j'ai fait beaucoup de jobs en serveur, en hôtellerie et tout. Donc, je connaissais le truc. En fait, moi, ce qui me plaît pas sur la restauration, c'est que, t'as des horaires. Et c'est bête, mais j'aime pas avoir des horaires parce que des fois au restaurant, tu vois, il y a personne, mais t'es là. Et j'avais l'impression de perdre mon temps, tu vois. Tandis que je préfère me manger, je sais pas, un dimanche où j'ai 15 heures de travail, je fais tout, et puis après, je suis plus tranquille dans la semaine. Tu vois, quand toi, tu bosses, tu sais que tu bosses quand tu veux, tu gères ton temps, tu fais tes trucs et tout. Et là, en fait, c'était pas le conditionnement de mon corps qui était relié à ma charge de travail, mais c'était, tu dois conditionner ton corps à rentrer dans ces horaires, dans ces créneaux-là. En fait, des fois, j'avais rien à faire. Et donc, moi, j'ai des gens qui me disaient « Ah putain, c'est bien, t'es là, mais t'as rien à faire. » Je dis « Ouais, mais je perds du temps, tu vois. » Tu vois, genre, je me disais « Mais je pourrais être en train de faire d'autres choses et tout. » J'avais plein de taf, que ce soit pour mon CDI ou le truc sur marketing. Et je me disais « Mais pff, c'est relou, quoi. » Puis après, en fait, pour avoir fait beaucoup de jobs physiques, moi, aujourd'hui, ce qui me plaît, c'est de travailler avec mon cerveau plus qu'avec mes mains, quoi, tu vois. Et ça, encore une fois, ça dépend des personnes. Mon associé Ava, elle est totalement, beaucoup plus l'inverse, tu vois, beaucoup plus terrain opérationnel. Et donc, tant mieux, parce qu'on se complète, tu vois.
Ouais, exactement, il y a une vraie complémentarité.
Ouais, franchement, ouais, aujourd'hui, on est hyper complémentaires tous. Et aujourd'hui, ça se passe très très bien entre nous trois.
Du coup, premier mois, très difficile. Quatre premiers mois.
Très très difficile.
Qui, j'imagine, ont paru beaucoup plus.
Ouais. Ah, c'était chaud. En vrai, c'était horrible.
Et du coup, après ces 4 mois, tu sors de l'opérationnel.
Ouais, en fait, les mois 5, mois 6, je réduis par 2 mes heures. Et moi, à la fin du mois 6, je leur dis, écoutez les gars, faites-moi confiance. Je vais beaucoup plus bombarder sur le marketing et tout. Je vais faire des trucs cool. Mais moi, je sors totalement de ça parce qu'en vrai, ça me saoule. Et honnêtement, genre, j'ai l'impression de perdre mon temps. C'est pas ma valeur ajoutée. On est 4. Pas besoin d'être 4 patrons dans un resto. Donc voilà.
Donc c'est à ce moment-là que tu te dis on va bombarder sur les réseaux sociaux.
On avait déjà, honnêtement, on avait déjà à l'ouverture bien bien bombardé, mais en fait je me dis je vais avoir du temps pour me creuser l'esprit et pour pouvoir aller encore beaucoup plus loin dans la réflexion, quoi.
Les deux plus gros canaux de communication du coup pour Père et Fiche, c'est TikTok et Instagram. Comment est-ce que tu as mis en place toute cette strat, tu vois?
Vu que je faisais beaucoup d'e-commerce et quand on en a pas parlé, mais j'ai fait beaucoup de dropshipping aussi à un moment donné en parallèle, histoire d'avoir encore moins de temps pour moi. J'avais la vision sur tout ce qui se faisait en e-commerce qui est beaucoup plus en avance que les business physiques. Donc, du coup, les réseaux sociaux, les stratégies publicitaires, l'influence, qui aujourd'hui est quand même un peu plus saturée, mais à l'époque, c'était un boulevard. Donc, en fait, j'ai réappliqué tout ça à Père et Fiche et le truc que j'ai fait un peu, on va dire sans faire exprès, c'est que j'ai direct associé la marque à une aventure de potes qui se lance, pas du tout une entreprise, ce qui est un peu aujourd'hui le truc de personal branding, building public et tout. Et on avait une page Facebook 1 an et demi avant l'ouverture d'un resto, ce qui est quand même beaucoup. En fait, sachant qu'en plus, on ouvrait un resto, quoi. Tu vois, on n'était pas en train d'ouvrir un truc qui va changer le monde. Compte Insta 6 mois avant l'ouverture, ce qui fait que quand on a ouvert, on avait déjà 8000 personnes Facebook et 4000 sur Insta, donc il y avait déjà une petite communauté. Et dès qu'on a ouvert, j'ai bombardé d'influenceurs. On en avait 40 par mois qui venaient. Plus de la pub qui tournait de tous les côtés. Plus grosse stratégie de contenu qui était beaucoup plus orientée photo à l'époque. Et petit à petit, vidéo. Et après, TikTok. TikTok, Covid, on rentre chez nous, pas grand chose à faire. Et pareil, je regarde, tu vois, beaucoup, beaucoup de vidéos, marketing, j'écoute plein de podcasts et tout. En fait, c'est comme ça que tu trouves un peu les failles à chaque fois. Je vois TikTok qui commence un peu à péter, je me dis, vas-y, go, on teste. Et de là, tout le monde m'a dit, n'importe quoi, TikTok, c'est de la merde. J'ai des associés qui m'ont dit, mais tu vas ruiner la marque.
Que des gens qui dansent dessus.
Et oui, ce qui était vrai à l'époque, mais en fait, j'aurais dit, les gars...
C'était le moment pour péter.
En fait, on avait déjà plein de vidéos Insta, qui était à l'époque un peu des vidéos, tu sais, à la Daniel Schiffer, là, avec les effets ouche, là, et tout, là. Et du coup, je dis, je vais juste faire du riposte. Et ça me prenait, mais je cutais une vidéo et je la postais, ça me prenait une minute. J'ai dit, on voit, et au pire, ça marche pas, bah tant pis, tu vois. En fait, à un moment donné, t'as une vidéo, elle a fait 500 000 vues, on a pris 15 000 abonnés d'un coup. Donc là, j'ai dit, ok, intéressant. Et en fait, petit à petit, on a commencé à s'y mettre de plus en plus. Et je crois que c'est vraiment avril 2021. On a déjà 50 000 abonnés TikTok où on s'est dit, ok, là, vas-y, on va se focus bien, bien sur le sujet et on va mettre en place une vraie strate de contenu. Mais j'ai fait ça parce qu'à l'époque, personne n'était sur TikTok, tu vois. Aujourd'hui, c'est pas ce que je conseillerais de faire. Mais en fait, je comprenais pas le réseau, tu vois, parce que honnêtement, même si ça commence à être vachement démocratisé, ce format très organique et tout, iPhone, c'était pas du tout vers quoi tendait le marché. Le marché tendait vers des vidéos de plus en plus pro et tout à chaque fois. Et j'avais cherché à trouver des jeunes, tu vois, qui allaient un peu m'aider sur ça. Et j'avais trouvé une fille, c'était une des potes de toute la French House, je sais pas si t'as envie de te parler.
Ça me dit un truc.
Qui venait au resto et on se faisait des TikTok ensemble et tout. Donc à l'époque, elle, c'était cool parce qu'en mode job étudiant, il y a personne qui proposait ça. Donc elle, ça lui faisait de la thune et on faisait des vidéos ensemble. Et moi, en fait, je comprenais un peu petit à petit comment ça fonctionnait, quoi. Et après, ben, petit à petit, on a professionnalisé tout ça et on a accéléré.
C'est vrai qu'on en a parlé rapidement, mais du coup, quelques mois après le lancement de Perifish, il y a effectivement la pandémie qui arrive. Comment est-ce que tu le vis, toi, d'un point de vue perso? C'est-à-dire, tu lances un business qui est full physique. Comment est-ce que ça se passe?
Ben, en vrai, déjà, quand on a ouvert fin 2018, on s'est pris gilets jaunes. Après, on s'est pris les grèves, réformes des retraites. Covid, guerre en Ukraine, inflation des prix. Donc en vrai, on a tout pris. Franchement, Covid, on n'a pas trop réalisé. Et en vrai, on l'a plutôt bien vécu. Parce que moi, on est tous rentrés chez nous dans le sud, tu vois. Et on était là, bon, on va voir, tu vois. Et en fait, quand on a réouvert, nous, on fonctionnait en livraison et à emporter. Donc on a eu des petits mois à perte au début, mais après, on s'est gavé, quoi. Genre, ça fonctionnait très, 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 très bien. On a fait quasiment des chiffres records pendant le Covid.
Trop bien.
Donc, limite, à la fin du Covid, j'étais triste que ça s'arrête, que tout revienne à la normale. Mais non, franchement, je pense personne réalisait ce qui se passait. Donc, on n'avait même pas ce truc de stress et tout. Tu vois, on avait pris un PGE qui nous a quand même bien endetté aujourd'hui, qu'on rembourse maintenant, mais qui nous a permis d'amortir le truc. Franchement, on était dans l'adaptation de ouf, quoi. On ne sait pas. Parce qu'en plus, ça a duré combien de temps au final?
Un an et demi.
Ouais.
Enfin, avec
tu vois, déjà, ils disent c'était quoi? C'était 2 semaines le premier confinement. Après, ça prolonge et tout. Après, ils en avaient remis un en novembre ou un couvre-feu, je sais plus. Et en fait, on était là en mode, on essaie de survivre, quoi. Tu vois, on se disait, mais putain, c'est incroyable.
Après, c'est clair que sur la food et notamment sur de la street food, je pense que ça a boosté, tu vois, les livraisons.
Ouais,
et aussi le lancement de Dark Kitchen, etc. Enfin, tous ces business qui sont uniquement focalisés sur de la livraison. Et je pense que ça a vraiment créé un vrai boost. Vous, ça vous a pas donné envie potentiellement de lancer des Dark Kitchen?
On en a ouvert une, qu'on a fermée au bout de 2 semaines.
Vas-y, raconte-moi ça.
Bon, écoute, en fait, l'avantage pendant le Covid, c'est que toutes les marques qui étaient, on va dire, un peu cool sur les réseaux jeunes, qui était déjà bien digitalisé, bah, j'avais déjà toute une communauté qui était hyper connectée, donc tu pouvais rentrer en contact beaucoup plus facilement et leur livrer tes produits. Donc en fait, c'était l'avantage de toutes les jeunes marques qui sont aujourd'hui un peu montées par des profils, tu vois, écoles de commerce comme nous, tu vois, qui sont pas purement de la restauration. Et Dark Kitchen, ouais, bah, on nous a proposé toutes les Dark Kitchen du monde et au final, on s'était laissé tenter sur un projet à Aubervilliers. Et en fait, au bout de 2 semaines, on a dit, franchement, on était à même pas 50% du seuil de renta tous les jours. C'est dit, en vrai, c'est impossible. Enfin, c'est tellement d'énergie pour gagner si peu à la fin. Donc, on est sorti. J'en connais très, très peu qui ont gagné de l'argent avec les Dark Kitchen. C'était un peu le...
Pas en France, en tout cas.
Hein?
Pas en France, en tout cas.
Il y en a. Après, tu vois, j'ai pas les chiffres, mais en fait, au vu de tous les projets qu'on nous a proposés, tout ce qui a fermé, toutes les boîtes un peu comme nous qu'on a testé et qui n'ont pas fonctionné, c'était un peu le scam version restauration.
le scam de la pandémie.
On te vendait la solution miracle et en final, le restaurateur, pour gagner de l'argent, c'était quand même très, très compliqué, quoi.
Ok. Aujourd'hui, vous, vous avez 2 restaurants ouverts, un à Paris, un à Lille.
Yes.
Ces dernières semaines, vous avez lancé votre franchise.
Exactement.
Comment est-ce que ça se passe, tu vois?
Eh ben, c'est plutôt cool parce que là, on a 142 candidatures pour 3 posts LinkedIn et 3 stories Insta.
Efficace.
D'où l'importance de la communauté aujourd'hui. Et non, que des bons profils. Là, tu vois, on en a vu une vingtaine sur 140 et on a déjà plus de bons profils que prévu sur le premier tour. Donc honnêtement, très cool, beaucoup de demandes. Nous, on est prêts là à débiter parce qu'on a bien tout préparé pendant plus d'un an et demi. Et écoute, on va voir. Hein. C'est tout repose sur les trois premiers franchisés qui, si ça fonctionne bien et qu'ils sont rentables, il n'y a pas de raison. Normalement, ça va être assez exponentiel. S'ils ne fonctionnent pas, ça va être assez exponentiel vers le bas. Quoi.
Ok, donc l'idée, c'est vraiment de tester avec trois premiers franchisés, puis de voir si ça fonctionne. Et
ouais, bah, là, on a un gros plan de développement. Après, encore une fois, faut y aller progressivement. Depuis le début, on a fait déjà beaucoup d'erreurs en se lançant et tout, forcément, mais on n'y est pas allé comme des bourrins, contrairement à beaucoup de personnes de la restauration et beaucoup d'enseignes qui ne tiennent pas à 5 ans, voire même maintenant à 2-3 ans, qui vendent de la franchise de tous les côtés. Nous, on a tous les trois un objectif de rester sur la boîte, tu vois. On ne veut pas faire d'exit ou quoi que ce soit dans 5 ans. Et on pense sincèrement que la marque peut s'installer en vrai partout dans le monde. Parce que là, tu vois, on a déjà des demandes de master franchise sur le Maroc, les Émirats, on a eu Belgique, Luxembourg, on a deuxième plus gros fonds immo du Japon qui veut racheter tout le pays. Donc, en fait, la marque, tu vois, on voit qu'elle attire vraiment. Et on sait qu'on est sur un produit où, tu vois, tu prends poisson culture asiatique, tu prends poisson les Émirats, le Maghreb, tu vois, tu prends
poisson... c'est complètement universel.
Enfin, honnêtement, ça peut aller... Ça, pour moi, limite, la France, c'est le pire marché sur ça, tu vois. Donc, je me dis, on commence par le plus dur, mais... Et après, encore une fois, on verra comment ça évolue, hein, parce que c'est bien d'avoir le potentiel, mais c'est l'exécution qui fait tout derrière, quoi.
Ok, super intéressant. C'est quoi, du coup, justement, les next steps? C'est le fait de tester la franchise potentiellement et toucher d'autres marchés?
Ouais, là en soi, on a une ouverture en propre de prévu à Paris en mode flagship, qui sera un peu le resto totalement adapté à l'univers, tu vois, Père et Fiche. Et en fait, on va signer là entre 3 et 5 franchisés qui ont des plans de développement entre 3 à 8 restos par profil. Donc bien sûr, l'idée, c'est de les étaler progressivement, tu vois, à partir de, je pense, on va dire janvier 2024 pour être large, mais il y aura une ouverture tous les un mois et demi, 2 mois. Et quand on voit que les premiers fonctionnent, que le modèle est rodé, bah après, à partir de là, il va falloir commencer à aller bien plus vite. Tu vois. Donc, je pense que sur 2024, il y aura peut-être 5-6 ouvertures. L'idée, c'est de passer à 10, 15, 25 par an après, 35 même. Et du moment que ça suit et que c'est rentable, continue. Et honnêtement, après, je ne sais pas à quel moment on va passer sur l'international, étant donné que c'est quand même bien de déjà couvrir le territoire français. Et encore une fois, chaque chose en son temps. Le truc du Japon, c'est qu'on avance avec eux, parce qu'en vrai, c'est ouf, mais moi, je sais même pas ce qu'on va leur vendre. En vrai. Et tu vois, on connaît pas le marché, on n'est jamais allé au Japon, mais en fait, c'est un truc qui te propose un deal de fou et que c'est pas trop compliqué à mettre en place, pourquoi pas, tu vois. Mais on verra.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes allé méga vite. Je sais pas si... Quand tu prends du recul, tu te rends compte de la vitesse d'exécution. Même si j'imagine, sur le moment, ça a dû paraître giga long. Peut-être ressenti 10 ans, tu vois. mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que la majorité des restaurants qui vont cartonner, ça va se passer... c'est-à-dire qu'ils vont s'ouvrir. Ils vont s'ouvrir les fins des mois vont se passer, ils vont communiquer, etc. Ça va potentiellement cartonner. Vous l'avez fait un peu de manière inversée. C'est-à-dire que vous avez commencé à communiquer bien avant le lancement du premier restaurant. Et ensuite, votre force de frappe aujourd'hui, c'est aussi grâce à votre audience et à votre stratégie de communication, tu vois.
Ouais, bien sûr. Mais en fait, le truc qui est cool, c'est qu'actuellement, on est en plein lancement de franchise. Et tu vois, on bosse avec des consultants qui ont développé tout. Pitaya, Berliner, Paradis du Fruit. On a rencontré quasiment tous les groupes de la restauration en France. Et déjà, d'un point de vue marketing, pas du tout humble, hein, ce que je veux dire, mais j'en ai pas vu un qui avait une bonne strat, tu vois. Et j'ai vu tous leurs plans de com et tout. Je parlais avec beaucoup d'équipes du groupe Bertrand sur plusieurs marques, tu vois, qui sont quand même plus gros groupes, tu vois, français. Toutes les chaînes à 20, 50, 100 points de vente. Donc, sur ça, en fait, on sait qu'on a une puissance de frappe. Et en fait, c'est déjà, on va dire, un peu prouvé, parce que par rapport à la taille qu'on a, on a une communauté, une autorité qui est monstrueuse. En fait, même sur la partie process, tout ce qui va être opération, sourcing et tout, on est, on va dire, au même niveau, tu vois, que sur le marketing, c'est-à-dire que tout est hyper carré et tout. Donc, en fait, on a comme un truc qui est prêt, tu vois, à exploser, ouais, mais qui n'a pas encore, tu vois, explosé. En fait, on sait qu'on a tellement tout bien travaillé en amont que ben là, même si ça va vite, on est prêt à encaisser le truc et ça va être carré, ça va être bien fait, tu vois. Donc, bon, il y aura forcément des imprévus, mais on a vraiment essayé de... Parce que pour le coup, nous, on ne trouve pas qu'on a un développement rapide.
Normal.
Tu vois.
c'est lent.
Parce que... Non, mais c'est ça. Et en plus, tu vois, on a des... on a des potes qui sont dans la restauration, Pokawa, tu vois, c'est des potes à nous, qui eux ont été plus vite que la lumière, tu vois. Et en fait, on a des modèles, tu vois, de comparaison aussi. Et après, en même temps, on se compare au meilleur en même temps, normalement. Donc,
c'est ce qu'il faut, je pense.
Hein? Ouais, bien sûr. Bah, honnête, carrément. Et tu vois, Pokawa, pour moi, c'est le plus gros truc des dernières années, quoi. Tu vois, ils ont vraiment pété le marché et c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Et donc l'idée, forcément, quand tu vois des modèles de croissance comme ça, même si c'est pas typiquement le même business model, bah, tu dis, putain, mais faudrait aller plus vite. Mais d'un autre côté, viens, on prépare bien tout et on va attaquer ben, en étant dans les meilleures conditions possibles, quoi.
À côté de ça, tu as monté une agence en 2020 qui s'appelle Brain Lab.
Exactement.
Qui est une agence de growth. Donc, clairement, ton expertise classique.
Exactement.
Est-ce que tu peux me parler un peu de cette XP en parallèle de.
Encore une fois, ça s'est fait un peu par hasard. Beaucoup de e-commerce, de dropshipping et ça m'avait un peu saoulé au bout d'un moment. Même si ça rapportait de l'argent d'un point de vue éthique. J'ai jamais été dans des trucs borders. Tu vois, j'avais toujours des produits corrects et tout, mais ta plus-value par rapport au client n'était pas incroyable. Et en fait, tu étais sur des modèles cycliques. Donc, tac, 3-4 mois, après tout le monde copie ton shop, ça crash, tac. En fait, quand tu l'as fait 10-15 fois, je trouve que c'est ouf comme expérience pour apprendre. Tu vois, de niveau connaissance dans ton cerveau, c'est abusé. Et après, ça me saoulait un peu. Et vu que Perifiche, ça avait déjà une bonne visibilité, beaucoup de demandes de consulting, marketing et tout. Donc, je commence un peu à faire ça avec des clients et j'ai un de mes meilleurs potes qui est à Nice, qui, pareil, a une boîte aussi, lui, de son côté, et qui avait fait beaucoup d'e-commerce, qui faisait la même chose. Et en fait, à un moment donné, on commence à accompagner un client. Mais par hasard, je crois que moi, je faisais Facebook Ads et lui, il faisait Google Ads. Puis on se dit, vas-y, viens, on gère le client ensemble. Puis on en a un deuxième qu'on est ensemble. Et en fait, après, on se dit, vas-y, viens, on fait un truc ensemble. Et au début, on était en mode un peu tous les deux en mode consultant. Et on a fait ça pendant un an et demi, comme ça, tous les deux. Et là, depuis début 2022, on a recruté plus en mode agence et tout, quoi. Et du coup, gestion d'ads sur tout ce qui est social et Google Ads et création de content, soit pour tes ads, soit du content organique en mode format classique UGC, très simple, quoi. C'est tout.
Ok, ouais, c'est vraiment pour appliquer ce que tu fais déjà sur Perifiche.
Ouais, exactement.
À d'autres marques, d'autres entreprises.
Exactement. Quoi. Et après, on a toujours, tu vois, on a beaucoup, beaucoup de clients e-commerce. Donc, contrairement à ce que tout le monde pense, quasiment aucun client dans la food. Là, on vient d'en prendre un. C'est le premier, je crois, d'ailleurs. Mais parce que, on gère des budgets publicitaires et la food n'a pas d'argent à dépenser dans la publicité. Ce qui n'est pas une bonne chose, mais c'est pas le même niveau, tu vois, d'investissement et d'éducation sur le marché. Donc, du coup, on a quasiment que des, tu vois, on a que des clients e-com qui dépensent entre 3 000 et 100 000 par mois en fonction de la taille. Et après, nous, on a un peu un rôle, tu vois, un peu bras droit e-com dans le sens où on a un peu une notion de consultant, tu vois, qu'on facture pas, mais en mode, vu qu'on a nos business actifs, on a plein de potes qui ont des boîtes e-commerce. Si, je sais pas, il a besoin de quelqu'un pour le mailing, il a besoin d'un presta pour faire un plugin,
ouais,
pour faire un site, on plug assez rapidement. Et l'avantage, c'est que quand on envoie des contacts, c'est des gens de qualité qui n'ont pas tarragé niveau prix, qui vont faire leur travail correctement et qui sont des personnes de confiance.
Ok, donc avec BrainLab, vous visez, votre cible, c'est l'e-commerce et potentiellement la food s'ils ont des budgets.
Ouais, en fait, la food, on est un peu rentré dedans parce que maintenant, on commence à prendre des clients sur de la partie content. Et donc, du coup, ça a élargi un peu le scope. Mais sinon, honnêtement, après, c'est un client, tu vois, e-com B2C, c'est vraiment, on va dire, le truc le plus facile à travailler parce qu'il y a trois un peu piliers à respecter. C'est ton produit, ton branding et ton site. Si t'as pas un bon produit en 2023, j'y crois pas de faire durer une marque sur le long terme parce que les coûts publicitaires coûtent plus cher, donc faut que t'aies un bon produit. Ton branding, faut que ta marque elle soit cool visuellement, tu vois, que les gens ils se disent ça a l'air stylé et que t'aies un site qui soit correctement adapté, qui fonctionne, tu vois, niveau UX, parcours d'achat. En fait, quand t'as ces trois prérequis, là nous on peut travailler avec toi parce que toutes les personnes qui n'ont pas ces trois prérequis, on n'accepte pas parce qu'on sait qu'il y aura des problèmes en fait sur le long terme. Et à partir de ce moment-là, en fait, tu prends une personne qui a ces trois trucs-là, qui a soit une mauvaise agence, soit qui fait pas de pub. Via toute la structuration que tu fais et les pubs que tu crées, honnêtement, c'est quasiment impossible de se rater derrière, quoi, tu vois. Parce que aujourd'hui, le produit, c'est quand même le truc le plus important.
Ouais, c'est clair. Ok, super, super intéressant. On passe à la partie bilan de ces aventures. Et ma première question. Peut-être que tu la connais déjà. C'est quoi le moment le plus difficile de ton aventure?
Je l'avais oublié, celle-là.
T'as évidemment le temps d'y répondre. Tout sera cuté, t'inquiète.
Non. Le moment où on a ouvert Perifiche et le moment où j'avais mon CDI et tout encore, franchement, c'était horrible. c'était horrible, mais c'était horrible d'une façon fatigante, tu vois. Donc c'était, j'avais pas d'énergie, mais l'aventure était stimulante. Je pense qu'après vraiment le pire moment, c'était il y a pas longtemps là, c'était genre tu vois Q4 2022, donc sur la période novembre. Là, c'était chaud. En fait, je me suis tout pris d'un coup dans le sens où on avait fait beaucoup, beaucoup de cash avec mon associé sur BrainLab, parce que bon, un modèle agence, ça rapporte du cash, tu vois. Donc, on a recruté un peu comme des débiles. Donc, en fait, les mauvais choix, tu sais, sur au bout de quelques mois, tu commences à les voir. Donc, on se retrouve à avoir une pas de, enfin, moins de croissance de CA, beaucoup de masse salariale. Beaucoup de brouhaha, tu vois, des employés qui te parlent et tout pour rien. En fait, on perd du temps de tous les côtés. On patine dans le vent. Donc, on commence un peu à être en mode, putain, faut tirer, tu vois, la sonnette d'alarme. En parallèle, sur Perefiche, on avait un prêt qu'on devait enclencher à la BPI qui traîne. Et en fait, on se fait refoule par la BPI alors que c'était pas du tout prévu. Donc, on se retrouve avec un mois et demi d'espérance de cash. Après, on pouvait plus payer les employés. Et au même moment, je me sépare de mon ex et je suis resté quasiment 6 ans, où bah, du coup, on coupe les ponts total et tout. Donc en fait, je me retrouve avec mes deux business sur le point de faire faillite. Je suis plus avec ma meuf et je me dis, OK, là, là, je me dis, là, c'est chaud, là.
Là, t'as une cascade de...
Bah là, je me dis, ouais, en vrai, là, ça fait mal, tu vois.
Donc ça arrive fin 2022, donc il y a quelques semaines finalement, il y a quelques mois.
Ouais, car c'était fin octobre, début novembre 2022, tu vois, donc il n'y a pas longtemps.
Et qu'est-ce qui fait que tu arrives à rebondir ?
Eh ben écoute, en vrai c'est incroyable. Je vais le raconter sur ce podcast quand même, mais là t'as une exclue. En fait... je regarde grave de trucs sur tout ce qui est cerveau et tout, tu vois, je fais beaucoup de développement personnel, de respiration et tout, plein de trucs comme ça, et j'ai une pote qui me parle d'une sorte de chamane qui a vu deux copines à elle et qui ça lui a changé la vie. Et encore une fois, je te dis bah vas-y, ouais, pourquoi pas, tu vois, genre je réfléchis pas du tout. Et en fait du coup c'est une personne qui travaille avec de l'AMD ou des champis. C'est de la psychothérapie sous psychédélique. Je vais la voir et j'ai dit, bah vas-y, ouais, on teste. Et je prends pas du tout de drogue, tu vois. J'ai dû en prendre 2-3 fois dans ma vie avant quand j'étais jeune, mais c'est pas du tout un truc que je kiffe. Et en fait, bah du coup, j'ai fait une sorte de... C'était en 3 sessions, mais j'ai fait une sorte de voyage sous MD, en mode séance de psy. Et c'était totalement ouf. Et du coup, j'ai revoyagé dans toute ma vie et j'ai eu un regard vachement différent sur plein de choses. Et à partir de ce moment-là, tu vois, ça fait genre... 4-5 mois maintenant que j'y suis allé. Et en fait, ça a vachement changé ma notion des choses, ma perception de l'environnement. Tu vois, comme sur, par exemple, Perefiche, bah, il y a toujours cette frustration de se dire, putain, mais on aurait pu aller plus vite, on pourrait faire plus, tu vois. Et beaucoup plus être dans le moment présent, apprécier ce que t'as fait, ce que t'as bien fait, et plus profiter des choses simples de la vie. C'est un peu cliché dit comme ça. Mais tu sais, je pense que t'as eu des moments, toi aussi, un peu chaud, et c'est vachement compliqué de sortir la tête du guidon, tu vois, sur ça. Et de prendre du recul sur la situation et juste d'apprécier tout ce que tu vis actuellement et de voir encore qu'est-ce que dans tout ce que tu fais, tu vois, est-ce qu'il y a des trucs que t'aimes pas faire et que tu pourrais cutter, tu vois, parce que nous, s'il y avait beaucoup de choses que j'ai fait un peu pour la pâte du gain, tu vois, en mode des clients qu'on avait pris qui nous saoulaient mais qui nous rapportaient de l'argent, tu vois,
c'est donc... normal au début, tu vois, de...
ouais, de ouf. Et en fait, petit à petit, j'ai coupé, on va dire, toutes mes branches négatives pour être dans un truc dans un climat hyper cool, hyper vertueux, et faire en sorte que je sois vachement aligné avec tout ce que je fais et que je kiffe, quoi, tu vois.
Ok.
Et donc voilà, mais incroyable.
Et tu vois, c'est pas la première fois qu'on parle de ce genre d'XP dans le podcast.
Mais non, putain, j'en ai écouté beaucoup.
J'ai discuté avec Maxime Barbier en septembre dernier, ex-Minute Buzz,
ouais.
Qui maintenant monte une startup à Lisbonne. Et lui, pareil, m'a raconté ses expériences et que ça l'a complètement transcendé, tu vois.
Ah non, mais honnêtement, donc, c'est abusé. Et genre, tu vois, t'es vraiment pas... Enfin, je suis pas le profil anti-drogue et tout. Si tu veux en prendre, je m'en fous, tu vois. Mais moi, c'est pas du tout un truc qui me plaît. Et en fait, le fait d'en prendre là, d'un point de vue plus scientifique un peu, en fait, je me rappelle de tout. Et c'est comme, tu sais, quand tu bois beaucoup, tu sors un peu de ton esprit, parce que le lendemain, tu te rappelles pas de tout, tu vois. Tandis que là, en fait, tu rentres au plus profond de ton esprit. Et moi, c'était totalement ouf parce que j'avais une intention principale à définir. Et tu vois, bon, la meuf, on a parlé et tout en amont, elle me posait des questions pendant 2 heures, elle m'a dit, en vrai, ça va, tu vois, elle m'a dit, tu vas très bien. En fait, moi, je lui ai dit, vu que je fais beaucoup, beaucoup de choses d'un coup, j'aimerais bien plus réussir à reconnecter avec moi-même et profiter du moment présent. Et donc, en fait, au moment où j'ai pris le truc et tout, au bout d'une demi-heure, ça part, et en fait, c'est parti, genre vraiment d'un coup, très, très fort. Et pendant 15 secondes, t'as une sensation un peu désagréable, et je me rappelle, genre, j'ai la sensation, mais c'est abusé, c'est que c'est comme si j'avais un raz-de-marée. Tu sais qu'en fait, comme si tu prends une montée d'eau, mais version énergie, et quand c'est arrivé à mon cerveau, putain, les gens vont me prendre pour un fou. Quand c'est arrivé à mon cerveau, ça a pété d'un coup. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est comme si tous les trucs douloureux que j'avais eu dans ma vie avaient disparu, mais genre en un claquement de doigts, que ce soit des blessures musculaires, des décès, des peines de corps, des embrouilles, des situations stress. Et en fait, genre, j'étais dans un état de détente totale. Et ce qui est fou, c'est que maintenant, tu vois, je me fais, pas tous les jours, mais j'essaye quasiment 4-5 fois par semaine. Je me pose, tu vois, dans la journée, 10 minutes dans le canapé comme ça, et genre, je m'allonge et je prends le temps de bien respirer. Et en fait, j'arrive à me remettre dans un état de détente, pas bien évidemment aussi puissant, mais tu vois, genre bien au-delà de ce que j'arrivais à faire avant, tu vois. Et en fait, quand je fais ça 10 minutes dans la journée, je sors de ce truc et genre, je me dis, putain, mais tu sais, c'est comme si tu rechargeais tes batteries de ouf. Ouais. Et du coup, en fait, depuis que j'ai fait ça, je suis d'accord avec toi, j'en ai parlé avec beaucoup de potes qui ont des boîtes aussi, et il y en a plein qui l'ont fait.
Ouais, je pense que c'est encore...
Je pense que je vais créer un groupe un peu sous-marin. Ouais, y en a beaucoup qui aiment pas, pas en parler. Ouais.
Ouais, non, mais c'est sûr. Autre question bilan, on a parlé du moment le plus difficile. Et là, j'aimerais connaître le moment le plus marquant pour toi sur l'aventure Périfiche.
Bah, en vrai, je pense que le moment le plus marquant, en vrai, c'est là récemment, c'est vu qu'on a failli faire faillite quand même, tu vois. Bon, techniquement, on avait des backups parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient investir dans la boîte, donc on savait qu'on allait s'en sortir. Mais on a vécu une période vraiment galère pendant 6 mois. Et en fait, ben, en gros, t'sais, c'est un peu les trucs dans la vie où des fois, tout ce que tu fais, ça marche pas, t'as pas de résultat et tout, tu comprends pas. Et du jour au lendemain, bah, t'étais dans une pente de déclinaison totale. Et du jour au lendemain, il y a tout qui te sourit un peu. Et en fait, on a eu, franchement, sur Périfiche, je pense, 1 an et demi de zéro bonne nouvelle, tu vois. Que des galères. Et en plus, on en rigolait. J'ai des vidéos qui sont pas sorties, tu vois, où je vois les comptes sont en négatif, on a plus de thunes et on dit, bon, bah voilà, là où on en est et tout. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu vois, on a eu une date, le 10 février, où on a eu une première grosse bonne nouvelle. Et on a dit, putain, 10 février, c'est genre le rebond, quoi. Et en fait, à partir de ce moment-là, on en a que des bonnes nouvelles, tu vois. Et je pense que c'est ça le plus marquant, c'est que, tu vois, on est passé dans une phase où on était vraiment down, où des fois même on se disait, putain, on arrête ou quoi. Tu vois, tellement c'était compliqué mentalement et pour nous. Et en fait, à partir de ce moment-là, bah là, depuis, ça fait 1 mois et demi, 2 mois, où bah, il y a tout qui se passe super bien, énormément d'opportunités et tout. Donc, je pense que c'est la première fois où on est là en mode, putain, le vrai regain, tu vois, d'énergie. Ouais. On sent que ça peut partir très, très haut, quoi.
Puis d'un côté, il y a eu ce switch, mais de l'autre, vous avez aussi eu la capacité à tenir le coup sur cette période, tu vois, parce que potentiellement, ouais, vous auriez pu vous dire, OK, je sais pas, on trouve un financement, enfin, on vend potentiellement le projet. Enfin, il y avait plein de solutions alternatives. Et au final, vous avez quand même gardé le cap. Tu vois.
Bah ouais, exactement. En fait, tu vois, on est 3 associés et Anthony, du coup, qui était celui qui avait l'idée à la base, ce qui est ouf, c'est que, tu sais, il était toujours hyper, 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 hyper optimiste. Et c'est vraiment, tu vois, sa force, parce que je pense que s'il n'avait pas été là aujourd'hui, tu vois, on ne serait pas encore tous là. Parce que c'est lui, tu vois, au moment où le bateau, il était en train de couler, c'était vraiment le capitaine du navire en mode... personne bouge, quoi. Et tu vois, nous, avec Ava, il y a des fois, on était en mode, putain, mais vas-y, on va arrêter, quoi, tu vois. Et en fait, le matin, tu travailles, tu dis, non, mais je peux pas arrêter maintenant parce que c'est trop gros ce qui peut se passer. Et après, l'avantage, c'est que ça se passait bien quand même entre nous, tu vois. Donc, on s'est retrouvés, tu vois, à un peu dans la même galère. Mais tu vois, là, on a eu des galères, genre, on s'était coupé les salaires pendant 6 mois. Enfin, tu vois, c'était des trucs vraiment relous. Et en fait, à la fin, on s'est tapé des barres en mode, putain, mais on est en train de... T'as ton niveau de vie, moi, il était comme ça. D'un coup, il a baissé, là, il remonte. Enfin, tu sais, c'est vraiment le montagne russe. Et vu qu'on était un peu tous dans la même merde, on se disait... Enfin, on le prenait vraiment à la rigolade, tu vois, alors que c'était pas drôle. Hein. Et je pense que c'est ça qui nous a vachement aidé à y tenir, vu qu'en plus, on était... on s'entend bien, tu vois. Parce que si tu t'entends plus et que t'es associé dans une situation comme ça, là, je pense que c'est mort.
plus le fait d'entreprendre avec ses potes. C'est-à-dire que si le projet, tu vois, y a un problème, etc., ça peut aussi créer des conséquences sur cette amitié aussi, tu vois.
Ouais, non, mais carrément, carrément. Et pour le coup, bah, nous, tu vois, à la base, on était 4, on n'est plus que 3. Donc, on a eu des désaccords et tout comme ça. Et ça arrive. Maintenant, moi, j'ai toujours entrepris avec mes potes et je pense que je le ferai toujours. Parce que quand t'entreprends, tes personnes, ça devient ta famille, tes meilleurs potes, tes associés. Tu passes tellement de temps avec eux que bah, si c'est pas une personne avec qui j'ai vraiment envie de passer du temps, même sans parler business, franchement, c'est relou parce que ça te prend les 2/3 de ta vie, limite, quoi. Voire même plus, tu vois. Et moi, je sais que sur l'agence aussi, c'est un de mes meilleurs potes, Axel. Et genre, à chaque fois qu'on est enfin, tu vois, avec Axel, on s'est jamais embrouillé une fois. On a les mêmes bandes de potes, on fait les mêmes soirées, on part en vacances ensemble. Et franchement, c'est trop cool d'être dans des conditions comme ça. Parce que, en fait, ben, t'as jamais l'impression de travailler.
On passe à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et l'entrepreneuriat. Ma première question, c'est de savoir c'est quoi le pire conseil qui t'a été donné, que t'as reçu.
Voilà, là, il y en a beaucoup, mais j'ai acheté un événement un peu business j'étais un événement business il y a 2 mois. Et il y a eu beaucoup d'entrepreneurs et de gros entrepreneurs, tu vois, de gros profils. Donc, c'était intéressant. Et en fait, tu avais un mec qui était complètement bourré, qui était je sais même pas ce qu'il a fait dans sa vie parce qu'il était vraiment, vraiment bourré, mais c'était une sorte de business angel qui avait monté des boîtes. Je pense qu'il a pas trop mal réussi. Mais tu vois, 35 ans, et en fait, il me dit, ouais, toi, tu fais quoi et tout. Et donc, je lui dis, ben, j'ai ça, ça. Et il me dit, ça te dit que je te challenge un peu, tu vois. Et je lui dis, en vrai, carrément, parce que bah, on a forcément à apprendre de tout le monde. Et en fait, il commence à me dire que mon projet, c'est impossible que ça fasse ces chiffres-là, parce que le burger au poisson, tout le monde s'en fout, que je suis un mytho. Mais tu vois, vraiment irrespectueux, mais il me faisait un peu de la peine, tu vois. Et en fait, il commence à se vénère tout seul, tu vois. Il me dit, mais t'es pas un entrepreneur, t'es un guignol. Et il y avait un pote à lui qui était là, qui était cool, tu vois. Il me dit, ouais, désolé pour lui et tout. Et après, deux secondes après, le mec, il commence à nous parler de sa vie sentimentale. Bon, bref, tu vois, le gars, torturé. Mais en fait, ça m'a fait rire, moi, parce qu'aujourd'hui, tu vois, je sais où j'en suis. Mais ce mec-là était, je pense, le plus gros bouffon que j'ai vu de toute ma vie. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est ouf de faire ça dans le sens où, si il parle comme ça à une personne qui se lance, t'as vu au début quand tu te lances, tu sais pas vraiment comment tu dois faire, qu'est-ce que tu dois faire et est-ce que c'est une bonne idée. Bah en fait c'est un peu un briseur de rêve le mec, tu vois. C'est-à-dire que oui, challenge-moi, dis-moi que peut-être là il y a des trucs à améliorer et tout, mais déjà en plus j'ai appris que le mec ne connaissait rien à la restauration. Donc déjà les gens qui les monsieur tu sais je sais tout, je déteste. Et en fait bah moi honnêtement je m'en fous de ce que tu me dis, mais si t'as le même discours avec tous les gens que tu rencontres comme ça, si t'as des personnes qui sont en lancement, bah en fait tu vas leur faire perdre confiance en eux, tu vas les démotiver. Et je trouve ça débile, tu vois. Enfin je trouve c'est même pas que je trouve ça débile, c'est que je trouve ça catastrophique, quoi.
Ouais, non, c'est ouf.
C'est vraiment moi le truc qui me saoule le plus, parce que c'est le plus gros problème actuellement, c'est que t'as plein de gens qui osent pas se lancer parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont pas confiance en eux, et c'est vraiment ce truc de croyance limitante. Donc si t'as un mec qui a fait des choses dans sa vie qui vient de dire t'es une merde, bah automatiquement ça va te brider, quoi.
Ouais, puis sur une première rencontre sans contexte, enfin c'est...
Ah non, mais c'était incroyable. Du coup, je me suis fait des petites notes et je me suis dit, je contacterai cette personne dans 10 ans et
c'est
on verra.
Clair.
Et il m'a dit ta boîte ne pourra jamais marcher. Donc écoute...
Ça peut se passer avant 10 ans.
Hein, on verra. Je reviendrai vers cette personne.
Horizon 3 ans.
Je ferai une petite dédicace.
Carrément. On lui enverra cet extrait.
Exactement.
Est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure, cette fois positivement?
Les gars de Green Bull avec qui on s'est associé, incroyable hasard. J'étais beaucoup sur Dubaï là pendant 2 ans et demi. J'ai dû être 8 mois en cumulé, un truc comme ça. Et mai 2021, j'étais tout le mois. J'avais un appart avec des potes, dont un pote qui venait de partir travailler pour Green Bull, un peu un profil intrapreneur, tu vois, très smart. On avait l'appart ensemble et en fait, nous on était à la piscine. Et mon pote avait un des boss de Green Bull qui s'appelle Benoît qui passe à l'appart. Moi, j'avais oublié une serviette. Je remonte en 2-2, je le croise, on papote 5 minutes. Il me dit, vas-y, je viens avec vous. Et en fait, il me dit, OK, tu fais quoi et tout. Et en fait, je lui dis, j'ai des restos. Et de là, il me dit, ah, trop stylé. Et je commençais à préparer une formation sur tout ce qui était marketing digital pour les commerces physiques. Et il me dit, mais putain, ça fait 3 ans que je cherche quelqu'un pour faire ça, parce que du coup, bah, tu sais, Green Bull, il y a Yann Darwin dedans, ils ont un gros, gros écosystème de formation. Et les gars sont à Nice et Dubaï, comme nous, on avait avec l'agence, tu vois. Ils ont genre 50 plus que nous. De là, on s'entend bien. On commence à se voir plusieurs fois, on se valide la formation, donc on s'associe sur la partie formation que moi je fais avec eux. De là, ils me filent des... Après, vu qu'ils ont plusieurs business, ils nous filent des certaines de leurs activités qu'on gère, nous, avec l'agence, avec BrainLab. Et en fait, après, bah, ils étaient déjà intéressés par Père et Fiche depuis 1 an et demi, tu vois, ils nous en avaient parlé. Et bah, là, ça s'est fait un peu en mode... suite des discussions, on s'est mis d'accord et au final... on a tous direct accroché sur le fait que fallait les faire rentrer eux et pas un fond ou quoi, parce que c'était des profils qui nous correspondaient, quoi. Et du coup, on s'est associé avec eux sur Père et Fiche également.
Et l'anecdote marrante, c'est que vous avez fait l'annonce le 1er avril.
Ouais, putain.
Il y a plein de gens qui...
Personne qui a compris.
Un poisson d'avril.
Ouais, ça, c'était mon idée. Et tu vois, on n'a pas toujours des bonnes idées, même quand on fait du marketing. Mais je suis du Père et Fiche, poisson d'avril. Et en fait,
c'est-à-dire que tout le feed LinkedIn, le feed Insta, etc., il n'y avait que des poissons toute la journée.
Ouais. Et en fait, vu que maintenant, il y a vraiment tout le monde qui raconte sa vie sur LinkedIn, il y a eu beaucoup, beaucoup de poissons d'avril cette année, tu vois. Ouais. Et les autres années, il n'y en avait pas trop. Et je me suis dit... Et en plus, le truc, c'est qu'on a fait un montage dégueulasse. Et parce que j'ai fait ça en 2 minutes, j'ai avec ça sous la main. Et donc, tout le monde a cru que c'était une blague, alors que non, tu vois. Et le truc marrant, c'est que quand j'ai vu Benoît... À Noël, au moment où on commençait à chercher, enfin, je lui ai dit, vas-y, on cherche des invests. On en avait parlé un peu, on était allé bouffer ensemble un soir. Et il me dit, bon, en vrai, ça va pas nous intéresser parce que vous êtes trop petit. Et du coup, je lui ai dit, bon, en vrai, y a pas de souci, mais dommage, je pensais que t'avais de la vision, quoi. Parce que c'était un peu un truc qu'on se dit tout le temps, tu vois, t'as pas de vision et tout. En fait, il m'a dit, attends, moi, j'ai pas de vision. Il m'a dit, ok, donne les chiffres. Tac, tac, je lui dis, il fait. Bon, vas-y, je te fais une proposition dans 1 semaine. Il me dit, on monte à Paris. On était monté à Paris juste après. On avait fait l'aller-retour dans la journée de Nice pour aller bouffer à Père et Fiche parce qu'il voulait quand même goûter les produits. Là, dans le retour, il me dit, vas-y, c'est bon, je te fais une proposition. Et alors, ça s'est vraiment parti d'un petit pic, tu vois, alors qu'à la base, il avait dit, j'investis pas dedans, quoi, tu vois. Et au final, tout est validé.
Ok, trop, trop cool.
Écoute, pour l'instant.
Ce n'est pas un poisson d'avril.
Ce n'est pas. Oui, je vais le répéter, j'ai dû le dire 5 fois déjà.
Ok, trop cool. Dernière question pour cette partie avant de passer à la partie finale. Est-ce que tu peux me citer potentiellement 2-3 entrepreneurs qui t'inspirent le plus aujourd'hui?
Ouais.
Pas forcément des gens que tu connais, que tu as rencontrés, tu vois, c'est vraiment large.
Ok, alors laisse-moi 2 minutes de réflexion parce que là, il y en a beaucoup.
Toujours.
Alors, 2-3, c'est chaud, mais... Moi, le premier, tu vois, profil que j'ai suivi niveau entrepreneuriat, c'était Gary Vee, qui est excellent dans ce qu'il fait. Donc, c'est une référence, je pense, à mettre de côté. Il y a beaucoup de chaînes, tu vois, YouTube, genre Marketing Mania et tout, que je suis énormément, où le mec,
Stan
Leloup, je l'ai jamais rencontré, mais tu vois, pour le coup, lui, masterclass, enfin, trop, trop fort. Et en fait, après, moi, j'avais grandi un peu avec The Family. Donc pareil. Oussama Hamar, honnêtement très controversé aujourd'hui, mais tu peux pas empêcher tout ce qu'il a fait pour ses entrepreneurs. Et j'étais passé par la formation d'Yomi début 2018 aussi, tu vois. Et en soi, c'est toujours un peu ce qui revient, tu vois, avec ses profils, c'est que c'est des personnes qui te donnent envie, tu vois, un peu d'entreprendre. Donc honnêtement, je trouve ça fou. Mais après, tu vois, même dans mon entourage. J'en ai beaucoup qui m'inspirent, tu vois, sur la restauration, t'as Maxime de Pokawa, il est trop fort, Edouard, emblème, groupe Omimo et tout, hyper smart. J'ai un pote qui s'appelle Armand, qui est à Beyond Media, je sais pas si ça te parle.
Ah, ça me dit quelque chose, ouais.
Très bon pote, 2001, tu vois, son agence fait 4 millions à l'année.
Solide.
Lui, tu vois, lui, à chaque fois que je lui parle, je me prends des claques. Genre, il est hyper, hyper chaud sur tout, immobilier, bourse, crypto, enfin, tu vois.
Polyvalent.
Incroyable. Et en fait, c'est que des personnes qui, à chaque fois, en fait, tu vois, le point commun, c'est que c'est des personnes qui sont passionnées par ce qu'elles font. Vu qu'elles sont passionnées, elles y passent du temps. Et vu qu'elles y passent du temps, elles montent en compétences. Donc, je trouve quand t'échanges avec des gens, il y a des gens qui arrivent à m'inspirer, alors qu'ils me parlent d'un sujet qui m'intéresse pas du tout. Mais ils en parlent tellement bien que je me dis, putain, le mec est en plein kiff, tu vois, dans ce qu'il fait. Et ça, honnêtement, tu vois, ça m'inspire. Je me dis, putain, lui, il est bien, tu vois. Donc c'est un peu les passionnés, tu vois, Théo Koudak, pareil, tu vois, genre...
Très fort.
y a rien à dire. Et honnêtement, je pense pas me tromper, c'est que la boîte va aller très très loin parce qu'il a il fait des erreurs comme tout le monde, mais il est hyper smart pour son âge. Il doit avoir quoi, 25, 26, un truc comme ça?
Je pense.
Un peu plus jeune, ouais. Tu sens que le mec, il kiffe ce qu'il fait, tu vois. Il raconte ses trucs sans bullshit ni rien, et c'est ça qui est cool aussi. La transparence des business.
Ouais,
de plus en plus.
Je suis complètement aligné là-dessus, et tu vois, c'est des choses qu'on retrouve sur le podcast, tu vois. Et c'est aussi pour ça que je continue de faire ce podcast, je continue d'avoir ces conversations. C'est que peu importe les sujets, dès que t'es en face de quelqu'un qui est passionné, tu vois,
ouais,
comme toi aujourd'hui, direct, cette passion,
Bah ouais, c'est clair.
Elle est connectée, tu vois.
C'est qui, toi, top entrepreneur?
Attention, il n'y a pas de rideau carte reverse là. question très difficile. Franchement,
juste
aujourd'hui, je ne saurais pas dire.
Ok.
En termes d'inspiration aujourd'hui?
Ouais.
Je m'y attendais pas. top entrepreneur.
Ah, franchement, c'est chaud. Moi, j'aurais pu en sortir 20 encore.
En vrai de vrai. Si je suis, parce que je suis pas mal de créateurs de contenu, etc., tu vois. Je pense qu'aujourd'hui, l'entrepreneur qui a su se diversifier, etc., et que je trouve assez impressionnant, aussi bien sur la création de contenu que d'un point de vue entrepreneuriat, c'est Squeezie.
Ouais.
Tu vois. Dans un style complètement différent.
Ah non, mais bien sûr.
Et lui ne se considère pas comme entrepreneur, mais factuellement.
Ouais, il l'est totalement. Ouais, non, mais c'est clair.
Il a un nombre de business.
Tu prends Mr. V et tout, même.
Voilà. Donc, c'est pas le premier, mais tu vois, c'est celui
clair.
Qui me vient en tête aujourd'hui, là, à 15h40. on passe à la dernière partie du podcast avec quelques petites questions rapides. À chaque fois, tu as évidemment le temps d'y répondre. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux?
Je me fais des exercices de respiration et je me retrouve souvent seul.
Ok.
Parce que c'est important de savoir apprécier ces moments seuls.
De ouf. C'est quoi ton plus grand rêve?
Franchement, m'acheter une île ou quoi, un truc comme ça. Genre, je me vois bien finir sur une petite plage tranquille.
Faire des cocktails?
Hein? Ouais, mais genre, tu vois, avec un bon wifi, parce que genre...
ouais, c'est important.
J'ai pas envie d'être mode retraite et plus juste travailler. Je pense que je travaillerai encore. Mais voilà, petite île où il n'y a personne qui me parle, je suis tranquille et voilà, je fais mes petits trucs de l'ordi et encore un peu de travail.
C'est quoi ta plus grande peur?
Arrêter de faire ce que j'aime. Genre pas, enfin franchement, si mes business ils crashent, je m'en fous. Enfin, ça me ferait chier, mais c'est pas un truc, une fin en soi, tu vois, mais c'est... arrêter de continuellement, tu vois, kiffer mes journées et tout. C'est vraiment l'objectif numéro un que j'essaie d'avoir et de maintenir. C'est que chaque jour que je me lève, je sais que même s'il y a des trucs chiants et tout dans la journée, je sais que je vais avoir une journée du moins soit que je vais kiffer, soit productive, mais qu'à la fin de la journée, je serai en quelque sorte un peu fier de ce que j'ai fait et que je serai prêt à passer à la journée d'après, tu vois, en mode cool.
Est-ce que t'as un livre à me conseiller?
Ouais, j'en ai deux même.
Vas-y.
Top 2, masterclass, pas de débat possible. l'effet cumulé.
Ouais.
Tu l'as lu, j'imagine?
Non.
Non, ok. Incroyable. Pour, le fait de mettre en place des habitudes qui, en étant 1% ouais. meilleur chaque jour et tout. Franchement, il est monstrueux. Deuxième, la puissance du subconscient, qui est assez liée, pareil, à tout ce qui est... développement perso, cerveau, neurosciences, le fait de la loi de l'attraction, pensée positive attire le positif et tout, tu vois. Mais totalement ouf aussi. Moi, c'est vraiment les deux qui m'ont retourné le cerveau et qui m'a... Puissance du subconscient a changé ma vie quand même il y a 3 ans en vrai.
Ok, bah, écoute, je vais faire une petite commande Amazon.
Franchement, ouais, je t'encourage vraiment.
Est-ce que t'as un film ou une série à me conseiller?
Film... franchement... top film qui m'a marqué, moi, c'était L'effet papillon. Tu l'as vu?
Ça ressemble à l'effet cumulé.
Il n'y a que des effets, moi. Non, c'était, putain, ça fait longtemps, mais je l'avais vu énormément de fois à l'époque. C'est que c'est un groupe de jeunes, et en fait, il y a un décès, et en fait, à chaque fois, la personne, elle modifie un peu les dernières scènes de sa réalité, et en fait, ça montre que quoi qu'il arrive, ben, y a toujours des réalités différentes, enfin, un futur différent qui arrive, mais l'effet en soi est le même à la fin, et le film était vraiment, vraiment stylé.
Ok, bah écoute, je note. Si tu pouvais racheter n'importe quelle société sans limite financière, ce serait laquelle?
En vrai, Apple, je crois, hein, parce que c'est celle qui vaut le plus cher, il me semble, non?
Ok, ouais, je pense, ouais.
On est dans le top.
Sans dire de conneries.
Dans ce cas-là, j'ai même pas besoin de la gérer en plus.
Non.
Ouais, je récupère les dividendes à la fin de l'année, ça me va.
Et tu reviens, c'est parti.
Et je paye plus mon Mac et mon iPhone.
La dernière question que je pose sur chaque épisode, c'est quoi pour toi un entrepreneur?
Ben, pour moi, un entrepreneur, ça va être quelqu'un qui vit de sa passion et qui est épanoui, tu vois, dans ce qu'il fait. Et parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est compliqué, et que si tu fais ça juste pour l'argent, sur le long terme, tu t'y retrouves pas. Donc, t'as juste à appliquer des choses qui te passionnent, que t'aimes. Ça va te permettre d'accumuler toute cette charge mentale et on va dire d'avoir un management, état d'esprit, développement de l'entreprise sain sur le long terme.
Mais écoute, ça va être les mots de la fin de cet échange. J'espère que ça t'a plu.
Très cool.
Moi, j'ai trouvé ça très cool. On mettra de toute façon tous tes liens en description. Et puis, on se retrouve très prochainement sur Serial Entrepreneur. Salut Alex.
Trop cool, merci, ciao.
Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si vous aimez Serial Entrepreneur et que vous souhaitez nous soutenir, c'est très simple. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme favorite, mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, et partager l'épisode à votre réseau. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.